histoire et conte.
Où vont nos rêves ? Laurent avançait prudemment sur la piste d'Attar. La voiture n'appréciait guère la tôle ondulée et menaçait de se désosser à chaque instant. Il scrutait régulièrement le ciel vers l'est, là où une tempête de sable avait été annoncée. En rejoignant le bourg dans l'heure suivante, il pourrait s'y abriter le temps du passage de la tourmente. Pour échapper à une vie qui ne lui convenait plus, Laurent avait accepté une mission humanitaire de diagnostic sur un coup de tête. Des apprentis sorciers aux bonnes intentions avaient réalisé des forages dans une oasis située à 3 jours de Chameau d'Attar, et l'eau salée qu'ils avaient trouvée en profondeur s'était mélangée avec celle des puits traditionnels. Il avait tout fui, sa femme, ses enfants, son métier, sa maison, ses amis, pour le rêve d'une vie nouvelle sans lien avec le passé. Brusquement, son pick-up fit une embardée dans le désert. « Un pneu éclaté, » bougonna-t-il. Il démonta la roue au plus vite, dévissant les boulons un par un, tandis qu'à l'horizon, une muraille rougeâtre grandissait. L'opération achevée, il jeta le cric à l'arrière, remonta dans la cabine et fit rugir le moteur, réussissant à regagner la route au moment où le sable l'enveloppait de toutes parts. Bientôt, le véhicule cala et la pénombre s'installa. Laurent rumina contre lui-même, contre la météo, la nature et la vie elle-même. Lorsqu'il eut fini de dépiauter le cuir de son volant, enfin, la bourrasque s'arrêta. On ne reconnaissait plus rien. Un océan de particules sableuses recouvrait le paysage. Au loin, la falaise rocheuse du plateau d'Attar émergea doucement dans la clarté renaissante du jour. C'était son seul repère. Abandonnant toutes ses affaires, il cala quelques bouteilles dans un sac à dos, se couvrit la tête et se mit en marche. Le soleil était loin d'avoir fini sa course. La température dépassa 50 degrés, et bientôt, ses réserves d'eau furent vides. À la tombée de la nuit, épuisé, il eut l'impression désespérante que le relief vers lequel il se dirigeait avait avancé en même temps que lui. Son sommeil fut envahi de songes lugubres. Il descendait dans les profondeurs de la terre par des tunnels étroits, rejoignait des grottes obscures, puis des salles à la chaleur étouffante, peuplé d'êtres qui en torturaient d'autres. À l'aube, il se remit en marche. Petit à petit, le pulse de sa vie lui revenait. Ses aspirations, ses rêves, ses échecs, ses renoncements et les trajectoires d'évitement qu'il avait empruntées. Il n'avait pas épousé Isabelle qu'il aimait. S'était mis en couple avec Claire qui l'exaspérait. Avait renoncé à une carrière de virtuose pour devenir enseignant, puis travaillé à la préfecture comme statisticien, et son existence s'était déroulée dans le confort de la société moderne, au détriment de ce qu'il aurait voulu vivre. Il tomba une première fois sur les genoux, puis une deuxième. À la troisième fois, il pria à Dieu de lui pardonner ses fautes, la faute, ne pas vivre la vie pour laquelle on est né. Lorsqu'il releva la tête, une oasis flottait devant lui dans les airs, presque à portée de la main. Debout, puis à quatre pattes, il se traîna jusqu'à l'îlot Salvateur. Le soir tombé, une foule l'accueillit, on lui donna à boire et lui fit prendre un bain. Une femme s'avança vers lui. « Isabelle ?» se demanda-t-il. Elle le conduisit vers une esplanade où un orchestre s'accordait. Bientôt, le chef donna le départ du concert. Un pianiste en queue de pie joua la première phrase du 4e concerto de Beethoven comme une porte s'ouvrant vers l'au-delà. Il s'approcha pour voir qui pouvait avoir un tel toucher. C'était lui.